Le journal Bruno Duvic.
Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans le journal de 13h. Au sommaire aujourd'hui, alerte au dérèglement climatique. Un cran supplémentaire est franchi. On ne parle plus d'années, mais de décennies brûlantes. 2010, décennies de chaleur exceptionnelle selon l'Organisation Météorologique Mondiale. Rapport présenté ce matin à la conférence climat de Madrid. Les détails dans un instant. Et bonjour Mathieu Vidard.
Bonjour Bruno.
Cette COP25, c'est le sujet de la Terre au carré à 13h30.
Avec effectivement des enjeux cruciaux pour le climat et pourtant malgré les rapports alarmants, l'inaction semble toujours dominer. Je reçois l'économiste Céline Guivarch pour évoquer avec elle la situation.
Et vos questions dès maintenant à Céline Guivarch, 01 45 24 7000. L'émission c'est donc à 13h30. Dans la série Dérèglement du monde, là c'est un gros coup de froid entre France et les États-Unis de Trump. Deux sujets de fâcherie. L'alliance est en état de mort cérébrale pour Emmanuel Macron, alliance atlantique. C'est insultant, lui répond Trump. Autre sujet de fâcherie, la taxe française sur les géants du numérique. Trump brandit des représailles massives sur le vin, le fromage et les sacs à main. Paris attend une riposte forte de l'Europe. La France, élève moyenne, système scolaire inégalitaire. C'est la conclusion du dernier rapport international PISA sur les performances scolaires des élèves. Nous en parlons avec notre invité, spécialiste de l'enseignement de la lecture, Roland Guagou. Les premières conséquences économiques avant le jeudi de tous les appels à la grève. Les réservations sont en chute à Strasbourg, en plein marché de Noël.
Les appels ont commencé fin de semaine dernière, par annuler. Ouais. Environ 10-12% de la capacité de l'hôtel. Oui.
Alors va-t-on revivre un décembre de grève comme en 95? La comparaison est-elle pertinente? Nous verrons cela avec le chef du service politique de France Inter, Yaël Goz. Sinon, quoi de neuf, Mozart? Vous aurez peut-être reconnu l'ouverture des Noces de Figaro. Bonjour Stéphane Capron.
Bonjour Bruno.
Nouvelle création Stéphane au Théâtre des Champs-Élysées à Paris. Mise en scène James Gray. On y va ou pas?
Alors on y va pour la direction musicale intrépide de Jérémy Rohrer et pour la distribution éblouissante. Dommage que la mise en scène de James Gray soit si désuète.
Bon, les détails avec vous tout à l'heure Stéphane Capron. Le 13h, vous avez le programme, c'est parti.
France Inter.
Nous entrons un peu plus chaque année, chaque mois presque, en zone de très forte turbulence. À la conférence climat de Madrid, l'Organisation Météorologique Mondiale remettait son rapport pour l'année 2019 et ça ne va pas du tout. L'organisation qui dépend de l'ONU nous dit deux choses. L'année qui s'achève, 2019, est parmi les deux ou trois plus chaudes depuis qu'on mesure les températures, 1850. Et ce n'est pas seulement une année qui est dans le rouge, mais toute la décennie 2010 marquée par une chaleur exceptionnelle. Envoyé spécial de France Inter à la conférence climat de Madrid, Sandy Dauphin.
Le dérèglement climatique s'installe. La planète s'est déjà réchauffée de 1,1 degré depuis 1850, l'ère pré-industrielle de référence. Omar Badour, l'un des auteurs du rapport de l'Organisation Météorologique Mondiale sur l'état du climat global.
On est presque certain que la décennie actuelle est la décennie la plus chaude depuis l'enregistrement des valeurs des températures.
Et l'année 2019 s'annonce comme la deuxième plus chaude après 2016. Ce réchauffement s'accompagne de phénomènes climatiques extrêmes comme la canicule de cet été ou les inondations en France.
Si le climat se réchauffe, on a tendance à voir des extrêmes. Les vagues de chaleur en priorité, puis les sécheresses, les inondations dans pas mal de pays, y compris en France. Donc il y a une relation étroite entre ce qui se passe sur le plan variabilité climatique et changement climatique et la fréquence et l'intensité des extrêmes.
Les scientifiques préviennent une fois de plus, au rythme actuel des émissions de CO2, le réchauffement dépassera les 3 degrés à la fin du siècle.
Et vous l'avez entendu en titre, cette conférence climat de Madrid est au menu de la Terre au carré juste après ce journal. Vos questions à l'invité de Mathieu Vidard au 01 45 24 7000. Le climat se dérègle et le système diplomatique international a lui aussi des accès de crise. Il y a 70 ans, après la Seconde Guerre mondiale, face à la menace soviétique, les principaux pays occidentaux scellaient une alliance. L'OTAN, Alliance Atlantique. 70 ans plus tard, les chefs d'État et de gouvernement sont réunis à Watford, près de Londres, dans une ambiance délétère, particulièrement entre France et États-Unis. Deux terrains de conflit. D'abord, les propos récents d'Emmanuel Macron, selon lequel l'OTAN est en état de mort cérébrale. Il critiquait notamment le désengagement américain. Bertrand Galichet, vous êtes l'envoyé spécial de France Inter à ce sommet très tendu de l'OTAN. La réplique américaine vient d'arriver juste avant un sommet Trump-Macron en début d'après-midi.
Ce premier rendez-vous de la journée promet d'être tendu après les déclarations virulentes de Donald Trump, qualifiant de très insultant le diagnostic de mort cérébrale porté par Emmanuel Macron sur l'OTAN. Un jugement très méchant à l'adresse de 28 pays, a dit ici le président américain lors d'une rencontre avec le secrétaire général de l'organisation, Jens Stoltenberg. Donald Trump, qui se dit très surpris, va en parler cet après-midi à son homologue français lors de leur entretien ici à Londres, à la résidence de l'ambassadeur des États-Unis. Le dirigeant américain ajoute que la France a besoin de l'OTAN. Ambiance garantie donc entre les deux hommes qui avaient affiché une complicité de façade à Biarritz lors du G7 à la fin de l'été. Sur le fond, Emmanuel Macron assume totalement son analyse et presse les autres partenaires de l'OTAN de revoir le fonctionnement politique de l'organisation. Les mots employés par le chef de l'État ont choqué beaucoup d'entre eux, mais certains partagent le point de vue alarmant de la France. Londres, Bertrand Galichet, France Inter.
Autre sujet de fâcherie, la taxe française sur les géants du numérique. 3% du chiffre d'affaires. Paris veut en faire un impôt mondial qui toucherait tous les grands groupes impliqués dans le numérique. Les États-Unis avaient donné leur accord de principe en août dernier. Et puis finalement pas. Je ne laisserai pas la France taxer les entreprises américaines, avance Donald Trump. Et il menace de répliquer avec des surtaxes sur le champagne, le fromage ou les sacs à main. Bonjour Laurent Kramer.
Bonjour Bruno.
On va s'intéresser avec vous à l'impôt. Impact de ces menaces sur les filières françaises, impact éventuel. D'abord, réaction des agriculteurs, sachant que le vin français est déjà surtaxé par les Américains à cause d'un conflit économique dans le domaine de l'aéronautique. Maintenant, il y a ce conflit dans le domaine du numérique. Jérôme Despé, le secrétaire général de la FNSEA, qui est aussi viticulteur, était à Matignon ce matin.
On ne peut pas être otage, on ne peut pas subir des dégâts collatéraux comme nous le subissons donc aujourd'hui. Nous avons demandé au Premier ministre de pouvoir privilégier avec l'Union européenne la voie de la négociation. Elle est indispensable parce qu'on ne peut pas avoir donc des sanctions dont on n'est pas à l'origine sur le plan donc commercial, que ce soit sur le numérique avec le GAFA, que ce soit sur l'aéronautique. Il nous faut donc privilégier la voie de la négociation pour faire cesser ces sanctions et surtout avoir des compensations, avoir des mesures de promotion pour réorienter le marché vers donc d'autres pays et avoir des réponses le plus rapidement possible de l'Union européenne et du gouvernement.
Voilà pour cette première réaction. Alors Laurent Kramer, comme promis, vous êtes avec nous. Donald Trump, Laurent, vise des secteurs français très exposés à l'international.
Et tout d'abord, les cosmétiques français qui réalisent près de 2 milliards de chiffres d'affaires aux États-Unis. L'Oréal, Chanel, LVMH avec les grandes maisons françaises de parfums. Le marché américain est la première destination à l'exportation pour les cosmétiques français. Même dynamique américaine sur les exportations de champagne. Elles aussi visées par ces menaces de taxation. Les États-Unis représentent le premier marché à l'exportation avec 1 200 000 bouteilles de champagne vendues chaque année aux États-Unis. La maroquinerie française également visée avec les sacs à main. Dans le collimateur de Washington, 2 millions de sacs à main français exportés chaque année aux États-Unis. Là encore, ce sont les grandes maisons françaises de luxe qui sont concernées. Loin derrière ces grandes entreprises, mais victimes collatérales de ces menaces de sanctions, les producteurs de Roquefort, eux aussi menacés, qui exportent quand même 306 tonnes de leur fromage de brebis aux États-Unis. Le Roquefort choisi comme emblème de la France, assurément une mauvaise nouvelle pour les producteurs qui voient la consommation de leur fromage reculer ces dernières années.
Et l'Union européenne agira d'une seule voix face aux menaces américaines, propos émanant ce matin de la Commission de Bruxelles. Alors lors de ce sommet tout en douceur de l'Alliance Atlantique, on parlera donc beaucoup de la phrase d'Emmanuel Macron dans l'hebdomadaire britannique The Economist début novembre, l'OTAN en état de mort cérébrale. Il pointait notamment le désengagement américain. Et cette phrase du président français n'est pas bien passée auprès d'une partie de nos alliés, les pays d'Europe de l'Est notamment, pour qui l'OTAN, même près de 30 ans après la chute de l'Union soviétique, reste une protection contre la menace russe. Écoutez l'analyse du spécialiste des questions de défense, Cyril Brett. Il est maître de conférences à Sciences Po.
Tous les États alliés de l'OTAN sur le flanc est de l'Europe considèrent que toute autonomie stratégique européenne serait comme une trahison ou serait comme un éloignement funeste à l'égard de Washington. Ça a été ressenti comme un choc, mais ça a aussi été ressenti comme la continuation de la posture stratégique française qui est toujours à part et qui est celle de militer pour un éloignement critique à l'égard de l'OTAN. Ce que Emmanuel Macron a voulu faire, ce qu'il a réussi à faire dans ces pays-là, c'est une vraie thérapie de choc pour faire prendre conscience aux pays les plus atlantistes, Pologne, Roumanie, États baltes que l'OTAN avait des lacunes et ne pouvait pas assurer au mieux toutes ses missions. Il faut bien savoir qu'à Riga et à Varsovie, à Bucarest et à Vilnius, toute distance, toute critique ou toute remise en cause de l'OTAN est perçue comme le début d'une fragilité et d'une vulnérabilité supplémentaire pour l'Europe.
Un propos recueilli par Nathalie Hernandez. Alors, la reine d'Angleterre a-t-elle le pouvoir d'apaiser les esprits? En tout cas, les chefs d'État et de gouvernement dînent ce soir à Buckingham Palace.
France Inter, le journal de 13h. Bruno Duvic.
La France reste en milieu de tableau et l'école française reste particulièrement inégalitaire. Voilà les deux enseignements de PISA, ce classement international des élèves de 15-16 ans. Trois disciplines évaluées tous les trois ans, maths, sciences et compréhension de l'écrit. Beaucoup de pays asiatiques ou occidentaux parmi les 80 qui sont évalués. Et Sonia Princey, selon les matières, nous sommes entre 20 et 26e au niveau de l'Allemagne et de la Belgique.
Oui, en compréhension de l'écrit, 10% des élèves obtiennent des scores élevés dans les tests et 20% sont en difficulté. En France, les résultats sont particulièrement corrélés au milieu social. Les élèves de milieux défavorisés sont 5 fois plus nombreux à ne pas atteindre le niveau minimal en lecture. C'est l'un des plus faibles scores de l'OCDE. Le ministre Jean-Michel Blanquer dit prendre ces évaluations très au sérieux, mais considère que sa politique va dans le bon sens.
Nous avons beaucoup de choses à faire progresser, mais ça ne sert à rien non plus de noircir le tableau. La situation, elle est stagnante en réalité. Sur la question des inégalités, on voit que nous restons au même niveau, c'est-à-dire que nous restons assez fortement inégalitaires. Mais l'ensemble des conclusions de l'enquête PISA corrobore un certain nombre de priorités que nous avons définies depuis 2 ans. La priorité à l'école primaire reste plus que jamais ce qui doit nous guider, ce qui évidemment donnera des fruits sur la durée.
Les effets des classes dédoublées en CP et CE1 dans l'éducation prioritaire se verront en effet dans PISA en 2027, voire 2030. Dans cette enquête, les experts de l'OCDE pointent aussi 2 phénomènes inquiétants en France, que détaille Éric Charbonnier.
Vous avez 1 élève sur 2 qui déclare être gêné à chaque leçon ou presque à chaque leçon par du bruit. Donc ça, c'est une proportion très élevée et beaucoup plus que dans les pays de l'OCDE. Et c'est surtout, ça va nuire à la qualité des apprentissages. Et l'autre nouveauté, c'est qu'il y a un problème de soutien des élèves qui déclarent se sentir peu soutenus par leurs enseignants. Donc ça pose des questions.
Or, un suivi plus individualisé permettrait de mieux faire réussir les élèves.
Ajoutons, Sonia, qu'une fois de plus, ce sont des pays asiatiques qui occupent les premières places, les provinces de Pékin et Shanghai, Singapour, Macao, Hong Kong, et parmi les pays occidentaux, l'Estonie, le Canada et la Finlande. Et puisque la majeure cette année était la compréhension de l'écrit, l'invité de notre journal est Roland Guagou, qui est professeur des universités et spécialiste de l'enseignement de la lecture. Bonjour monsieur.
Bonjour monsieur.
Que retenez-vous de ce classement ?
Plein de choses, parce que j'ai passé ma soirée à lire les 1100 pages de ce magnifique rapport.
Pour nous, merci beaucoup.
Première chose, les résultats sont moyens, mais ils sont stables. Depuis 2000, ils sont extrêmement stables. Ça veut dire qu'il faut arrêter de raconter que le niveau baisse. Ça n'est pas vrai. Ouais. Il faut cesser le catastrophisme, ça use les profs. Ça pose des problèmes de recrutement, de jouer avec les dénonciations permanentes. Il y a toute une série de motifs de satisfaction. Je vous en donne un. J'ai regardé de près les résultats en lecture, écriture des jeunes issus de l'immigration, qui représentent 14% de nos jeunes à 15 ans, et dont un tiers d'ailleurs sont de milieux sociaux très défavorisés. Et on voit que leur différence de performance, une fois qu'on a neutralisé les caractéristiques sociales et qu'on reprend le critère issu de l'immigration, il y a 13 points de moins que la moyenne, alors que dans les autres pays de l'OCDE, c'est 24 points de moins. En d'autres termes, nos jeunes issus de l'immigration, notamment ceux de deuxième génération, réussissent à l'école bien mieux que ne le font leurs homologues dans les autres pays. Je pense que c'est une bonne nouvelle et qu'il y a des bonnes nouvelles dans ce rapport et que ça serait intéressant de les regarder tout autant que l'autre question évidemment délicate qui est le fait que l'école n'arrive toujours pas à compenser les inégalités.
Alors comment améliorer les choses, Roland Guagou? Régulièrement, ce qui revient, mieux former les enseignants, investir dans les établissements prioritaires, investir dans les premiers niveaux d'éducation. Jean-Michel Blanquer a beau jeu de dire que c'est ce qu'il fait. Est-ce que les mesures prises ces derniers mois, ces dernières années, vont porter leurs fruits à échelle 5, 10, 15 ans?
PISA ne peut absolument rien dire de ça. On ne peut pas passer de PISA à 15 ans pour dire que ça légitime une réforme sur le cours préparatoire. C'était ce que nous avaient dit Darcos et Derobien, messieurs Darcos et Derobien, dans les années 2007-2009. Nous sommes aujourd'hui avec les jeunes qui ont fait leur cours préparatoire en 2009 sous cette mandature-là. Ils sont pas meilleurs. Contrairement à ce qu'on nous avait annoncé, et je donne rendez-vous en 2027. Ce que je veux dire par là, c'est que PISA nous fait une photo de notre école, de son état, et elle ne nous donne pas des clés d'explication, de causalité, de pourquoi c'est comme ça. Bien sûr, nos jeunes de milieux défavorisés sont très nettement moins performants que les jeunes de milieux favorisés. Mais dans ces jeunes de milieux défavorisés, beaucoup d'entre eux sont dans des lycées professionnels. Beaucoup d'entre eux sont dans des établissements ségrégés. En d'autres termes, ils ont à la fois un niveau de performance différent, mais ils sont aussi dans des zones géographiques dans lesquelles l'habitat concentre la pauvreté et dans lesquelles leurs choix d'orientation, PISA le montre, sont révisés à la baisse. C'est-à-dire que les ambitions des jeunes sont moindres que ce que leur niveau de performance leur permettrait d'espérer.
Roland Boigou,
en d'autres termes, je finis juste une phrase.
Allez-y.
On a une école qui est exactement à l'image du pays. C'est une photo du pays qu'on a à travers PISA, de la fracture sociale de notre pays.
Et on voit, on voit aussi les autres pays. Est-ce qu'il y a de bonnes idées à prendre ailleurs, notamment dans le domaine qui est le vôtre de spécialité, l'enseignement de la lecture ?
Oui, si on regarde cette question de des nouvelles pratiques, parce qu'en fait, ce sont des nouveaux usages. Les usages changent énormément. On a beaucoup de descriptions. Une chute vertigineuse des écrits sur papier. Des écrits de magazines, de journaux, même d'emails. Les jeunes sont sur des écrits qui sont composites, avec du texte et de l'image, avec des chats en ligne, avec des tas de formes, et on évalue ces compétences sous des formes numériques, alors que on ne les enseigne pas. Donc oui, je pense qu'il y a à revoir un certain nombre de choses sur le fait d'ajuster les pratiques d'enseignement à des pratiques sociales qui sont celles des jeunes pour pouvoir prendre appui leur source du plaisir dans la lecture. Oui. Il n'est plus tout à fait le même que nos sources de plaisir à nous. Il va falloir peut-être s'interroger aussi sur celle-là.
Roland Boigou, il y a un point étonnant, en tout cas on ne l'avait pas relevé les autres années, la question de la discipline qui perturbe l'enseignement. Qu'en dites-vous ?
Oui, je pense que les professeurs pourraient vous le décrire aussi. C'est pas toujours simple de faire classe face à des adolescents de 15 ans. Ils parlent aussi de leur expérience de collège, qui est un de nos maillons fragiles du système. Et on sait que le fait qu'il y ait du temps à consacrer à retrouver le calme fait baisser le temps d'apprentissage. Oui, je pense qu'il y a des problèmes de conduite de classe, évidemment. Et donc, bien sûr, aussi des questions d'éducation au sens large. Je dis, c'est le pays tout entier qui est interrogé par ces résultats et évidemment aussi de formation des enseignants.
Encore une question sur la méthode PISA et au fond l'importance que peut avoir ce classement. Est-ce qu'il sert ? Est-ce que c'est une référence permanente là dans les 3 ans à venir ? Est-ce que dans les écoles de professeurs on va dire en permanence vous avez vu PISA, il faut faire ça, il faut faire ci ?
La France n'a jamais beaucoup traité PISA comme une source d'information très très importante. Il n'y a pas de choc PISA en France comme il y a eu dans d'autres pays.
En Allemagne, par exemple.
En Allemagne, oui. En Allemagne, qui d'ailleurs a des résultats moins bons que ceux de la France. Oui. Là-dessus, c'est une photo. Mais encore une fois, je pense qu'on a besoin d'autres recherches qui nous donnent des pistes d'explication de causalité. Et là, pour l'instant, on a des descripteurs. Mmh. Est-ce que le fait que nos établissements soient ségrégés, que les jeunes les plus faibles soient dans des classes qui réunissent les jeunes les plus faibles, est-ce que c'est une source d'accroissement des difficultés des jeunes ? C'est une hypothèse. Mais PISA ne nous permet pas de le conclure. Ça ne peut être qu'une hypothèse interprétative, et il faut d'autres travaux pour passer de ce tableau descriptif à des pistes causales et à des hypothèses sur comment penser l'évolution du collège. Je pense beaucoup au collège en particulier. Ce qui est certain, c'est que la réforme du collège qui a eu lieu sous le mandat de Najat Vallaud-Belkacem, n'a provoqué ni la dégradation que certains nous annonçaient, ni l'amélioration espérée. La situation reste stable.
Merci Roland Guagou pour vos réponses et merci d'avoir épluché ce rapport pour nous. Je précise que les principaux enseignements de ce rapport, on les trouve également sur franceinter.fr. Nous sommes à J-2 avant le jeudi de tous les appels à la grève, les transports, les écoles, les palais de justice, cabinets d'avocats, commissariats, beaucoup d'entreprises privées. Les préavis sont très nombreux, contre la réforme des retraites avant tout, mais pas seulement. Quelques 500 stations-service étaient à sec ce matin, blocage des dépôts de pétroliers. Ils se lèvent petit à petit près de Rennes, à La Rochelle et à Brest. Les effets de cette journée de mobilisation, quoi qu'il en soit, se font déjà sentir très concrètement au marché de Noël de Strasbourg. L'ambiance est morose, Nicolas Fillon.
Au Monopole Métropole, un 4 étoiles dans le quartier de la gare de Strasbourg, on était paré depuis longtemps pour ce nouveau week-end de marché de Noël.
C'est complet depuis 2-3 mois. Ouais.
Mais Claudine, réceptionniste, explique que l'annonce de la grève est passée par là.
Les appels ont commencé fin de semaine dernière pour annuler. Ouais.
Plus d'une trentaine de nuitées entre mercredi et samedi sont désormais vacantes après les annulations, ça fait beaucoup.
Environ 10-12% de la capacité de l'hôtel, oui.
Pour la réceptionniste du Victoria, un hôtel 3 étoiles de 47 chambres dans le même secteur, le problème est identique.
Moi j'ai enregistré plus de 10 annulations de réservations. On a un groupe qui devait venir, ils étaient une vingtaine, ils ont annulé également. Les gens sont un peu perdus, ne savent pas encore ce qu'ils doivent faire.
Et malgré la tentative de gestes commerciaux,
on reporte la nuitée, on est compréhensif bien évidemment, parce qu'on est nous-mêmes embêtés.
C'est toute une profession qui est pénalisée selon Pierre Siegel.
On est complètement démunis, on est carrément pris en otage.
Il est président du syndicat des hôteliers restaurateurs de Strasbourg.
On en veut quand même à certains syndicats qui ne se rendent pas compte de l'impact que peut avoir leurs actions et leur prise d'otage sur le reste de l'activité économique d'un pays.
Voilà pour ce reportage à Strasbourg. Alors évidemment, à l'avant-veille de ce 5 décembre, on pense aux grandes grèves de 95 quand Alain Juppé était Premier ministre. D'autant que l'actuel chef de gouvernement, Édouard Philippe, est un proche de l'ancien maire de Bordeaux. Bonjour Yael Gozé.
Bonjour Bruno.
Chef du service politique d'Inter. Est-ce que la comparaison est pertinente?
Réponse non, et pour plusieurs raisons. D'abord sur le calendrier politique, mi-quinquennat pour Philippe, tout début de mandat pour Juppé, différence aussi sur l'état de l'opinion publique. Chirac 95, c'est la fracture sociale, d'où le choc 6 mois après l'élection. D'ailleurs, le plan Juppé, qui est écrit dans un projet de loi à l'époque, alors que rien n'est gravé dans le marbre aujourd'hui, brasse beaucoup plus large, régimes spéciaux de retraite, mais aussi sécu, allocations familiales, un plan présenté le 15 novembre 95 à l'Assemblée.
L'addition des corporatismes et des égoïsmes qui existent ne saurait arrêter notre élan.
Et un Premier ministre beaucoup plus rond, 3 semaines après, face caméra depuis Matignon.
Nous sommes dans une situation de blocage et d'affrontement. Il faut en sortir d'urgence. Je souhaite de tout cœur que les choses s'apaisent.
Édouard Philippe était-il juppéiste à ce moment-là? Non, pas encore. Il a 25 ans, énarque en stage, en préfecture, à Carcassonne. Il observe et 24 ans après, corrige en amont des grèves, contraste dans le style.
L'universalité, oui. La brutalité, non.
Pas droit dans ses bottes, mais souple dans ses baskets, métaphore filée par ses proches. Précisons au passage, Bruno, que les bottes n'ont rien à voir avec le schmilblick des retraites. Quand il en parle, en juillet 95, c'est sur l'affaire de son HLM parisien. Un point commun, quand même, pour finir, la main tendue au syndicat dit réformiste, Nicole Notat hier, Laurent Berger aujourd'hui, sauf que la question de l'équilibre financier empoisonne tout. Et là, Édouard Philippe reste paramétriquement droit dans ses bottes.
Merci Yael Gozé. C'est un simple avertissement, mais il est public et marqué. Le CSA met en demeure la chaîne d'info continue Canal+, CNews, la met en demeure de respecter ses obligations, pas d'incitation à la haine et la violence, cela après des propos du polémiste Éric Zemmour, l'une des vedettes de CNews. La chaîne juge la mise en cause injustifiée et saisit le Conseil d'État. Nous en venons à la chronique santé, comme chaque mardi dans ce journal de 13h. Bonjour Daniel Messager.
Bonjour Bruno.
Donner naissance à son enfant ailleurs que dans l'univers très médicalisé de l'hôpital, beaucoup de femmes le souhaitent et une expérimentation est en cours avec des maisons de naissance. L'INSERM vient de publier les premiers résultats à propos de ces maisons.
Et qu'est-ce que c'est qu'une maison de naissance? Eh bien c'est un lieu qui est contigu à une maternité, ça la haute autorité de santé l'exige. Mais où le suivi de grossesse et d'accouchement se déroule dans une autre ambiance, on peut dire plus naturelle. naturel, avec un accompagnement par la même sage-femme du début de la grossesse à l'accouchement. 8 maisons de naissance ont ainsi été évaluées, plus de 500 accouchements ont eu lieu. L'idée était d'apporter de la science dans le débat public. Est-ce plus dangereux, plus compliqué? Anne Chantry est chercheuse et sage-femme. Elle fait partie du groupe de chercheuses en santé publique qui a procédé à cette évaluation et elle présente donc ses premiers résultats.
Nos résultats sont très encourageants. On a montré que la qualité des soins et leur sécurité sont très positifs. On se posait des questions puisque c'est quand même un modèle de soins extrêmement innovant qui n'a aucun rapport avec l'hôpital. Les soins, ils sont continus. La patiente est suivie par quelqu'un qu'elle connaît, qu'elle voit tout le temps au long de la grossesse, qui est la même personne pour l'accouchement et pour les suites. Ne connaissant pas ce système, on imaginait un peu le pire, alors qu'en réalité, nos résultats montrent que la qualité des soins y est très bonne. Quand on se compare à l'international, où les maisons de naissance ont montré même que leurs résultats étaient meilleurs qu'à l'hôpital, on a, nous, des données qui sont tout à fait comparables à ce qui se passe à l'international. Donc, c'est très encourageant.
Et alors, si une naissance ne se présente pas bien, que se passe-t-il, Daniel ?
Eh bien, la maison de naissance est collée à une maternité. Ça peut être même, par exemple, dans le même établissement, mais à un autre étage. Et dans ce cas, il suffit de transporter la femme sur un brancard. Ça peut se réaliser en quelques minutes.
Des situations de transfert, il y en a eu, parce que des complications, ça arrive en obstétrique. Ce qui est intéressant d'évaluer, c'est est-ce que les conditions de sécurité étaient réunies pour ces transferts, et puis est-ce que finalement on a perdu du temps ou pas de temps. Et on montre qu'il y a 22% des femmes qui sont transférées pendant le travail, 6% des femmes qui sont transférées une fois qu'elles ont accouché, et 2% des enfants qui sont transférés une fois qu'ils sont nés. Et dans la très grande majorité des cas, ces transferts sont faits par surprécaution. Et quand ils ont été réalisés, on a montré que les issues étaient très favorables. Donc là aussi, les résultats sont très positifs.
Alors ce qu'il faut dire aussi, Daniel, c'est que beaucoup de médecins ne sont pas favorables à ces maisons de naissance.
En effet, les gynéco-obstétriciens mettent en avant les risques médicaux pour les femmes et leurs bébés. Alors certains y sont farouchement opposés. D'autres proposent qu'une maison de naissance pourrait exister dans un hôpital, mais avec un contrôle plus strict. D'autres études doivent encore être menées avant une décision d'éventuelle extension de ces maisons de naissance qui devrait être prise avant l'été prochain.
Daniel Messager, chronique chaque mardi dans ce journal de 13h. Un peu de plaisir et de légèreté, c'est au Théâtre des Champs-Élysées à Paris jusqu'à dimanche. De Figaro, l'opéra de Mozart. Alors, sur le papier, sur la partition, c'est très alléchant, Stéphane Capron à la baguette. Jérémy Rohrer, mise en scène, le réalisateur américain James Gray.
Alors déjà, musicalement, la folie mozartienne, elle est là.
Bon.
Grâce à Jérémy Rohrer, à la tête de son cercle de l'harmonie, il assume une direction d'orchestre frénétique, exacerbée. L'entente avec James Gray a été parfaite. Jérémy Rohrer a été rassuré par l'humilité du cinéaste, dont c'est la première mise en scène d'opéra.
La plupart du temps, la plus grande épreuve pour un chef, c'est d'avoir affaire à un metteur en scène qui superpose sa propre dramaturgie à celle de Mozart, qui est excellente. Ce qui fait qu'il a fait une mise en scène, tout en apportant sa touche, évidemment, extrêmement respectueuse des inflexions de Mozart. Et d'une manière assez étrange, le fait qu'il soit novice dans ce genre nous a laissé beaucoup de liberté et beaucoup de cohérence par rapport à la musique.
Alors il y a l'expertise musicale parfaite de Jérémy Rohrer et puis une distribution sans fausse note dans cet opéra où Mozart et le librettiste avaient écrit des rôles de femmes fortes, dont celui de la comtesse Almaviva incarnée par la soprano Vanina Santoni.
C'est la parole aux femmes et c'est très très d'actualité. J'ai beaucoup pensé ce soir en le chantant. J'espère qu'un jour on aura une égalité, en tout cas une parité homme-femme. C'est un peu l'idéal. Donc ouais, Mozart arrive à donner toute sa force de caractère à travers les femmes.
Un petit peu, et on parle de la mise en scène aussi.
Alors, c'est là où ça se gâte. Hein. James Gray, on sent bien qu'il a souhaité rendre hommage au théâtre de Tréteaux, à la Commedia dell'Arte. Il restitue le côté bouffon du livret, mais sa mise en scène est, comment dire, un petit peu apprêtée. Ça fait un peu opéra à la grand-papa. Il n'a pas pris de risque. C'est très sage. Et franchement, on le regrette avoir fait venir James Gray des États-Unis pour ça. Dommage.
Bon, si vous voulez y aller, tout de même, c'est jusqu'au 8 décembre, jusqu'à dimanche, autrement dit, au Théâtre des Champs-Élysées à Paris. Merci Stéphane Capron.
La météo avec les fermiers de Loué qui ne font rien. Rien que des poulets fermiers élevés en liberté. Loué, libre par nature.
Jean-Pierre Hameau.
Avec le retour des conditions anticycloniques, les températures s'annoncent assez fraîches jusqu'en fin de semaine. Cet après-midi, les maximales évolueront en général entre 4 et 10 degrés du nord au sud. Ça sera plus doux près de la Grande Bleue, avec des valeurs comprises entre 11 et 17 degrés. On ira même jusqu'à 19 à Ajaccio. Et puis côté ciel, vous allez retrouver cet après-midi beaucoup de grisailles entre la région parisienne et les frontières du nord, des nuages du Pays Basque au pourtour du Golfe du Lion et un bon ensoleillement dans les autres régions. Demain, prévoyez le même type de temps, beaucoup de nuages bas et de bandes de brouillard en matinée, se dissipant assez tardivement pour laisser la place au soleil, excepté vers la plaine d'Alsace et le Val-de-Saône, et puis prévoyez des pluies soutenues vers les Pyrénées-Orientales. Les minimales en fin de nuit seront froides et comprises entre -5 et 0 degrés, comptez 1 à 10 près de la Méditerranée.